Et c'est l'heure du journal de Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Le gouvernement met le turbo sur le vaccin contre le Covid-19. Objectif 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin du mois d'août. Est-ce réaliste? Vous poserez la question à votre invité Karine.
Oui, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui est l'invité du grand entretien ce matin. Quatrième vague de coronavirus. Quelle est précisément la situation dans nos départements? À quoi va ressembler la suite de notre été? Et puis comment le gouvernement espère-t-il réussir à convaincre ceux qui hésitent encore à se faire vacciner? Je vous donne rendez-vous à 8h20 avec vos questions, vos observations, comme toujours, au 01 45 24 7000.
Tandis qu'à l'Assemblée, les députés se sont quittés à minuit, après des heures de débats tendus sur l'extension du pass sanitaire, il leur reste 900 amendements à examiner aujourd'hui. Les juges des libertés et de la détention, eux, s'inquiètent. Comment vont-ils contrôler l'isolement obligatoire des personnes testées positives? Vous les entendrez. Utøya, 10 ans après, la Norvège commémore les terribles attentats d'extrême droite qui ont fait 77 morts à Oslo et sur l'île d'Utøya. Pour lutter contre les contrôles aux faciès, des associations annoncent qu'elles vont saisir le Conseil d'État. Et puis de la danse, pour clôturer le Festival d'Avignon, Sonoma, du chorégraphe espagnol Marcos Mauro. Nous irons dans la cour d'honneur du Palais des Papes à la fin de ce journal.
France Inter.
50 millions de vaccinés, on n'y est pas encore, mais c'est le défi lancé par le Premier ministre aux Français avec l'ouverture de 5 millions de nouveaux rendez-vous. L'objectif, c'est donc d'ici fin août que 50 millions de Français aient reçu au moins leur première injection. Actuellement, on en est à 38 millions de primo-vaccinés. Voilà pour les intentions et l'intendance, elle devrait pouvoir suivre. Alice Cachaner.
Atteindre 50 millions de premières doses d'ici fin août, le défi est de taille, mais pas irréalisable, estime-t-on du côté des pharmaciens. Pour relever ce challenge, deux conditions, recevoir plus de doses et pouvoir proposer en pharmacie tous les vaccins commercialisés, insiste Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
Le Moderna a eu un gros trou d'air au mois de juillet. On a eu pratiquement 2 semaines où on n'a pas été approvisionné. Mais pour tenir le rythme, il faut aussi proposer du Pfizer. Ça permet d'avoir une offre complète. Les patients viennent vraiment avec beaucoup d'envie de se faire vacciner et rapidement. Nous, on joue le jeu à fond. Donnez-nous des doses, on fera le boulot.
En revanche, du côté des centres de vaccination, certains imaginent mal augmenter encore une fois leur cadence. Le médecin François Teboul supervise le centre de la mairie du 15e arrondissement de Paris.
Ça paraît difficile d'augmenter énormément le nombre de doses. Là, on a déjà, nous, augmenté. Suite aux annonces de M. Macron, on est déjà pas mal à 200%, à la fois en termes de cadence, en termes d'espace. Là, pour l'instant, on est proche du niveau de saturation.
Pour atteindre son objectif, le gouvernement mise sur des campagnes mobiles de vaccination, notamment sur les lieux de vacances ou de rassemblement.
Et face à la circulation de plus en plus active du variant Delta, avec 21 000 contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures, certaines villes en Meurthe-et-Moselle, dans l'Hérault et en Vendée, rétablissent le masque en extérieur, des mesures locales laissées à l'appréciation des préfets. Pendant ce temps, les discussions sur l'extension du pass sanitaire sont bloquées à l'Assemblée. Dans une ambiance tendue, les députés ont suspendu les débats hier soir à minuit. Entre invectives et rappel au règlement, une seule modification a été adoptée, l'extension du pass sanitaire pour les déplacements internationaux pour les enfants de moins de 12 ans. L'opposition s'en est donnée à cœur joie, notamment contre l'extension du pass sanitaire. La droite demande de la souplesse. Le député LR Éric Ciotti a fustigé le changement de discours du ministre de la Santé Olivier Véran.
Je voudrais ce soir vous citer, monsieur le ministre, c'était il y a 3 mois au Sénat, vous disiez avec beaucoup de conviction, le jour où on pourra rouvrir les lieux, je vous cite, ils doivent être ouverts pour tous. Je ne considère pas que l'on puisse dire à un Français que s'il est vacciné, il peut aller au restaurant et que s'il n'est pas vacciné, il ne puisse pas y aller. Aujourd'hui, il manque des doses et comme il manque de la volonté pour accélérer cette campagne, vous venez nous donner des leçons. Un peu d'humilité, monsieur le ministre.
Et la réponse d'Olivier Véran, il faut avancer car le virus n'attend pas.
Honnêtement, nous avons besoin d'avoir des mesures de protection des Français et des établissements recevant du public.
Monsieur Corbière.
Je le redis et je le martèlerai toute la soirée. La question, monsieur Ciotti, n'est pas l'avis, n'est pas de savoir si j'ai changé d'avis. La question, elle est de la décision et de la nécessité, monsieur le député. Gouverner, c'est choisir entre deux solutions mauvaises, le confinement et le pass. Je choisis le pass. Regardons quel sera votre choix.
Et les débats reprennent à 9h ce matin, avant un examen du texte demain au Sénat pour une adoption définitive dans le week-end. Parmi les nouveautés prévues par la loi, un isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne testée positive au Covid-19. Jusqu'à présent, cet isolement était seulement recommandé. Il sera désormais contrôlé par les forces de l'ordre. Et le texte prévoit une autorisation de sortie entre 10h et midi et des aménagements en cas de contraintes familiales ou professionnelles. Comme toute restriction de liberté, la mesure est susceptible d'un recours devant le juge. En l'occurrence, le juge des libertés et de la détention qui devra statuer dans un délai de 72 heures. Mais ces juges, les JLD, sont débordés. Ils gèrent déjà les placements en détention provisoire, le contrôle des hospitalisations psychiatriques sous contrainte. Alors en plein été, ils craignent de ne pas pouvoir absorber cette nouvelle charge de travail. Clémentine Vergniaud.
Faire toujours plus, mais à moyen constant. Les juges des libertés et de la détention ont déjà des calendriers extrêmement chargés. Si un grand nombre de malades du Covid les saisissent pour faire lever leur isolement, ça va devenir ingérable, selon Marie-Lise Brard, JLD à Saint-Malo et membre de l'Union syndicale des magistrats.
Je pense que ce sera extrêmement compliqué, voire même impossible à mettre en œuvre sans désorganiser le service du JLD au détriment d'autres contentieux. C'est un peu un vœu pieux en l'état de nos effectifs actuels.
Le risque, c'est donc que certains dossiers soient négligés et que, par exemple, des détenus sortent de prison faute de décision à temps, car ces juges ont des délais très précis à respecter et avec l'accumulation permanente des missions, ils n'ont plus le temps de travailler correctement, d'après Marie-Lise Brard.
La lassitude, elle est là, la fatigue psychologique aussi au niveau de l'endurance, elle est là aussi, parce qu'on a l'impression de bâcler notre travail alors que le cœur de notre métier, c'est quand même et l'audience et la motivation, ce qu'on peut plus faire tellement il faut gérer la masse.
Conséquence, beaucoup de lassitude et de fatigue psychologique pour ces juges et leurs greffiers.
France Inter vous le révèle ce matin, des associations ont décidé de saisir le Conseil d'État pour lutter contre les contrôles aux faciès.
Oui, Amnesty International et Human Rights Watch notamment avaient lancé une première action de groupe en janvier dernier, mais faute de réaction des pouvoirs publics, elles demandent donc à la haute juridiction administrative de contraindre le gouvernement à prendre des mesures pour mieux encadrer les contrôles d'identité. Au sein même de la police, certains dénoncent ces pratiques discriminatoires, comme ce fonctionnaire qu'a rencontré Ariane Grissel.
Il dit avoir choisi la police par patriotisme, pour s'engager pour la France, et c'est pour mettre fin aux dérives qu'il affirme avoir constaté que ce gardien de la paix a décidé de témoigner. Sa profession est soumise au devoir de réserve, nous avons donc modifié sa voix.
On ne peut pas réfuter l'existence d'un racisme, bien qu'il ne soit pas généralisé. Et je pense qu'il faut tout faire pour y remédier, parce que c'est ce qui nous fait du tort dans nos rapports entre policiers et population.
Ce fonctionnaire qui exerce en région parisienne dit avoir observé une tendance de certains collègues à orienter leur contrôle.
Le simple fait qu'une personne ne parle une langue étrangère, qu'on se retrouve à proximité d'une ambassade, ça peut motiver un contrôle. À n'importe quel coin de rue, on peut trouver justement un motif pour ces pratiques qui sont discriminatoires.
Ce policier, lui-même d'origine africaine, et 5 de ses collègues ont témoigné lors de l'action de groupe menée en janvier par plusieurs associations, dont Amnesty International France. Sabine Gagné est responsable du programme Protection des Populations pour l'ONG.
Les personnes qui ont témoigné, certaines ont pu en faire part à leur hiérarchie, mais elles ne voient pas les choses changer.
Le policier dit avoir lui-même été la cible de contrôle qu'il juge abusif alors qu'il était en civil.
Dès lors où je n'avais plus mon uniforme, j'étais potentiellement une personne qui pouvait avoir commis une infraction alors que la réalité elle était tout autre.
Ce policier estime que tout se joue dès la formation. Il plaide pour une sélection plus stricte des candidats à l'entrée en école de police.
Ariane Grissel, vous vous souvenez sans doute de ce féminicide commis à Mérignac près de Bordeaux le 4 mai dernier. Shaïnès Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, avait été brûlée vive en pleine rue. Or, le policier qui avait pris la dernière plainte de la jeune femme contre son mari violent venait d'être condamné lui-même pour violence sur sa compagne. La mission d'inspection nommée à la suite de ces faits avait pointé un sérieux doute sur le soin apporté à l'enregistrement de la plainte, mais pas un mot donc sur le passé judiciaire du fonctionnaire, passé révélé hier par le Canard enchaîné. Écoutez la réaction entre tristesse et sidération de l'avocate de la famille de Shaïnès, maître Solène Roquin-Bardet.
Je suis abasourdie. Cette personne condamnée pour des violences intrafamiliales un mois avant, quelqu'un a priori qui a des problèmes d'addiction à l'alcool, et cette personne est laissée en contact avec le public, quelqu'un qui est là pour rassurer pour prendre les plaintes de la façon la plus objective possible. C'est des plaintes de femmes qui se disent victimes de la violence de leur conjoint. Ça peut être des plaintes de mineurs, victimes de violences intrafamiliales, mais qui auraient peut-être tendance à être minimisées par des gens eux-mêmes auteurs de violences. On apprend là aussi que cette personne n'est toujours pas passée en conseil de discipline. Ça me pose un réel problème. On a, par les politiques mises en place depuis quelques années, gagné un peu la confiance des victimes qui poussaient plus facilement la porte des commissariats depuis quelques temps. Là, malheureusement, toutes ces informations nous font reculer d'un pas. Il ne suffit pas de discours. Les discours sont importants, mais ils ne sont pas suffisants.
Des propos recueillis par Mathilde Lemaire. Comment relancer la construction de logements neufs? Cela fait des années qu'on ne construit pas assez de logements en France. Le gouvernement a missionné en juin dernier le maire de Dijon, François Rebsamen. Il vient de rendre son premier diagnostic et des propositions pour remédier à la baisse du nombre de permis de construire d'immeubles dans les grandes agglomérations. Ils sont en chute de 20% dans les zones les plus denses. Les explications de Claire Chaudière.
Manque de terrains disponibles en ville, opposition des habitants et réticence de certains élus depuis 2017. La construction de logements collectifs, là où les besoins sont pourtant les plus importants, s'effrite, au point même d'impacter le produit intérieur brut, alerte François Rebsamen, le maire de Dijon.
Le premier trimestre, le PIB a reculé de 0,1 parce qu'il n'y a pas eu assez de construction. Il y a une dégradation accentuée par 2020 et il n'y a pas la reprise qu'on est en droit d'attendre.
L'élu à la tête d'une commission qui planche sur le sujet propose donc un plan pour inciter et récompenser les maires bâtisseurs, qu'il s'agisse de logements privés ou du secteur HLM, où le décrochage est lui aussi inquiétant.
On donne en retour aux maires qui construisent du logement social des avantages financiers qui se répercutent dans les finances de la commune. Alors après, c'est à moi d'obtenir ça du gouvernement.
D'ailleurs, il y a encore de la marge, assure-t-il, pour construire sans sacrifier la nature, à condition d'être un peu imaginatif.
On peut raisonnablement densifier les villes, on peut surélever un certain nombre de bâtiments, utiliser les friches publiques ou friches privées, récupérer des surfaces qui sont aujourd'hui bitumées pour les rendre à la nature.
Et ainsi compenser d'éventuelles extensions urbaines. Sujet sensible, mais avec 4 millions de mal logés en France, impossible en tout cas, conclut la commission, d'opter pour la décroissance.
Et le rapport définitif de la commission est attendu à la rentrée.
C'était le 22 juillet 2011. La Norvège vivait sa journée la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale.
Un attentat à la bombe au centre d'Oslo avait fait 8 morts. Le tueur, le militant d'extrême droite Anders Breivik, avait ensuite abattu méthodiquement 69 jeunes gens réunis sur l'île d'Utøya pour un camp de la jeunesse travailliste. La plupart avaient moins de 20 ans. Élise Delève a retrouvé Lynn Ehum, une survivante d'Utøya.
Lynn Ehum n'aime pas en parler. 10 ans après, une partie d'elle est toujours à Utøya.
Avant Utøya, j'étais une danseuse, j'étais une personne très active. Après Utøya, je ne pouvais plus m'entraîner. À chaque fois que mon pouls accélérait, cela me renvoyait au jour où j'ai couru pour sauver ma vie et où mon pouls était évidemment très haut.
La jeune femme, aujourd'hui âgée de 35 ans, s'est plongée dans la politique pour oublier ce jour tragique. Tout comme Goethe Skarvo, survivant et aujourd'hui député travailliste, il s'inquiète de la montée de l'extrême droite en Norvège.
On voit les idées de Breivik dans les commentaires des articles des journaux, sur Facebook, sur Twitter. Et ces idées ne sont pas relayées uniquement par les plus extrémistes. Personne ne dira qu'il soutient les actions de Breivik, mais pas mal de gens soutiennent ses idées, et ça c'est dangereux.
Anders Breivik est en prison depuis 2011. Tant qu'il sera jugé dangereux pour la société, il ne pourra pas sortir. L'île d'Utøya, elle, est sortie de sa torpeur. Un centre de mémoire a été construit pour promouvoir la démocratie et chaque année, des camps d'été sont à nouveau organisés.
Et des cérémonies sont prévues aujourd'hui à Oslo et sur l'île d'Utøya. Après les révélations de l'affaire Pegasus, ce logiciel espion utilisé par les services secrets marocains, le Maroc réfute ces accusations. Les autorités marocaines menacent d'engager des poursuites judiciaires contre toute partie qui reprendrait ces allégations. Le dernier bilan des inondations dans le centre de la Chine, il s'élève à 33 morts et 8 disparus. Plus de 300 000 personnes ont été évacuées. Au Canada, ce sont les flammes que fuient les habitants. La province de Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays, a décrété l'état d'urgence face à l'avancée des feux de forêt. Et puis pour terminer, un chorégraphe espagnol dans la cour d'honneur pour clôturer le 75e festival d'Avignon. Sonoma de Marcos Mauro met en scène 9 danseuses du collectif La Véronale, un spectacle qui revisite les traditions et mythologies espagnoles sous l'influence du cinéaste Luis Buñuel. Stéphane Capron était à la première hier soir.
Marcos Mauro a choisi de rendre hommage à Luis Buñuel et à la révolution surréaliste. Comme le cinéaste, le chorégraphe s'est affranchi des traditions et de son éducation catholique. Sur le plateau immense de la cour d'honneur, les 9 danseuses de Sonoma se métamorphosent. Elles tournoient dans des rondes frénétiques. C'est pour Marcos Mauro une quête vers la libération.
Ce sont 9 femmes qui parlent, crient, chantent, dansent, prient. Elles traversent cette cérémonie, ce rituel. C'est une naissance, une mort, un passage de leur vie depuis leur enfance jusqu'à ce qu'elles vieillissent et meurent. Les femmes sont le fil conducteur du travail. Luis Buñuel avait une fascination pour les femmes. Il l'a montré dans Viridiana et bien d'autres films. Je pense que Sonoma est une invitation iconoclaste à casser les choses établies pour réapprendre à regarder.
Sonoma est une pièce hypnotique martelée par le fracas des tambours. Les 9 danseuses scandent des textes en français, la langue de la révolution pour Marcos Mauro. C'est un spectacle en constante tension. Il est obsédant, tellurique, envoûtant, souvent angoissant et assourdissant. Il ne laisse aucun répit aux spectateurs dans cette quête vers l'exorcisme. Un spectacle un peu éprouvant pour une fin de festival.
Voilà, et pour ceux qui en perdraient leur espagnol, ça s'appelle Sonoma de Marcos Mauro.
Voilà,
on va y arriver. C'est jusqu'au 25 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et ensuite, le spectacle sera repris à Chaillot au mois de janvier, Karine.
Tout est bien noté. Merci Corinne Audouin. Bonne journée. La météo.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie, le soleil continue de régner sans partage.
Et les nuages seront encore plus rares aujourd'hui. Sur le bassin aquitain, les entrées maritimes s'étendent au réveil, laissant place assez tardivement aux éclaircies, notamment vers le Pays Basque. Des nuages bas qui transitent aussi sur le littoral méditerranéen, glissant de la Côte d'Azur ce matin au Languedoc-Roussillon cet après-midi. Et puis quelques petits nuages se développent sur les Alpes du Sud, comme près des frontières nord entre les Vosges et les Ardennes, voire l'est des Hauts-de-France. Ces cumulus seront plus dodus sur les Pyrénées, offrant une possibilité d'averse cet après-midi sur le relief. À part ces quelques touches de gris, la journée est très ensoleillée. Et puis les 4 départements en vigilance orange pour des crues sont maintenus.
Et les températures sont estivales.
Largement, elles gagnent même encore quelques degrés dans le sud-ouest et continuent de tutoyer les 30 degrés en Bretagne. Cet après-midi, vous pourrez prévoir 25 degrés à Cherbourg, 32 degrés à Rennes, 27 à Nice et Mulhouse, mais 37 à Toulouse, 26 degrés à Lille, mais 29 à Nevers, Lyon ou Aurillac, 30 degrés à Paris, Clermont-Ferrand et Ajaccio, 33 degrés à Vannes, mais jusqu'à 35 à Bordeaux, 36 à Montauban et 37 à Toulouse.
Wow. Merci Caliente. Stéphanie Fromentin. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, Dubaï. Wahdahou min Souria. Sur France Inter.
Et Géopolitique, c'est avec vous, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Ce matin, ce sont des émeutes en Iran qui ont retenu votre attention.
Oui, des émeutes qui agitent depuis 6 jours une région particulièrement sensible de la République islamique, le Khuzestan, dans le sud-ouest du pays, non loin de la frontière avec l'Irak. Cette région est sensible pour 2 raisons. La première est qu'elle est entre autres un peuplé d'arabophones. C'est si vrai que cette province a été un des points majeurs de disputes territoriales pendant la guerre Iran-Irak, vous savez, dans les années 80. Mais cette province est surtout sensible pour des raisons économique, c'est dans ce coin d'Iran que se situent 80% des installations pétrolières du pays. Donc rien de ce qui concerne le Khuzestan n'est anecdotique en Iran et surtout pas des émeutes. Celles-là ont commencé en fin de semaine dernière par des revendications très basiques. Les coupures d'eau sont persistantes dans la région et surtout, il n'y a plus d'eau pour les cultures et le bétail. Le Khuzestan a soif et le fait savoir dans la rue.
Elles ont été réprimées, ces manifestations ?
Immédiatement, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux qui montrent les forces de l'ordre chargeant les manifestants et dans certaines, on devine au son des tirs. D'ailleurs, les autorités ont admis 4 morts, ce qui généralement signifie un bilan beaucoup plus lourd. Mais ce qui est inquiétant pour le régime, c'est que malgré la répression, ces manifs n'ont pas cessé. On a même assisté hier dans la capitale Téhéran à des rassemblements de quelques dizaines, voire de centaines de personnes exprimant leur solidarité. Plus intéressant encore, les manifestants du Khuzestan, comme ceux de la capitale, s'en sont pris directement au guide suprême, Ali Khamenei, un tabou en Iran qui tombe donc. Et surtout, toutes ont fait référence aux manifestations de novembre 2019.
Des manifestations qui avaient fait des centaines de victimes.
Voilà, on évoque même le chiffre de 1500 victimes tuées à balles réelles ou battues à mort par les forces de police iraniennes. Une des pires répressions jamais orchestrées par le régime des Mollahs, et pour une raison assez évidente. Ces émeutes avaient touché l'Iran en profondeur. Ce sont de petites villes de province qui s'étaient soulevées sur des questions sociales, le prix de l'essence notamment. Au fond, comme aujourd'hui, au Khuzestan. Or, plus que des manifs d'étudiants ou d'intellectuels à Téhéran, ces jacqueries provinciales sont perçues à raison comme beaucoup plus dangereuses pour le régime des Mollahs, d'où une répression plus féroce et surtout immédiate, histoire de briser vite les volontés. C'est ce qui s'est passé les 11 et 12 juillet, vous savez, à Cuba, des manifs de la faim en province, loin de la capitale et de ses élites, et de la même et de la Havane à Téhéran. Eh bien, les dictatures sentent le danger de la même façon et tirent dans la foule de la même façon.
Merci Anthony Bélanger. Gabriel Attal, l'invité de la matinale.